Bonjour à tous, bienvenue au Salon africain dans le cadre du 28e Salon du livre de la presse, du livre et de la presse de Genève, pour une rencontre avec un penseur majeur de notre temps, un esprit à la fois brillant et une personnalité très discrète, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, à l'occasion de la sortie de son livre « Comment philosopher en islam ». Cet ouvrage est paru la première fois en 2009, je crois que c'est la troisième édition. Il ressort aux éditions Philippe Rey. Souleymane Bachir Diagne, bonjour.
Bonjour Eda.
Nous nous connaissons et nous ne nous connaissons pas parce que nous avons pas mal échangé par courrier électronique et par téléphone. Et il avait été envisagé que je me rende à New York pour que l'on poursuive une discussion, un échange sur la philosophie et votre travail. Et finalement, nos agendas ne collaient pas et le destin, on reviendra sur cette notion de destin, le mektoub, a fait que c'est à Genève que cette rencontre a lieu pour le plaisir de tous. Je crois que votre approche, votre pensée est particulièrement importante, d'une part parce que nous avons besoin d'une réflexion philosophique, nous avons besoin d'une respiration philosophique pour prendre du recul par rapport au devenir de nos sociétés de plus en plus sophistiquées, qui sont en agitation, et d'une autre part pour aussi réfléchir sur la question de l'islamité, qui est une question extrêmement mise en avant, que ce soit au sud et au nord. Et nous avons aussi des expressions à la fois de repli identitaire, de crispation, de retour, de conservatisme d'une part, mais nous avons aussi des attitudes et des expressions de rejet, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Donc je suis très heureux que nous ayons l'occasion d'avoir une discussion que je qualifierais comme une sorte d'exercice de philosophie citoyenne et transculturelle. Je vous présente, vous êtes né en 1955, vous êtes sénégalais, vous avez accompli vos études universitaires en France, classe préparatoire, grandes écoles au lycée Louis-le-Grand, licence et maîtrise de philosophie, diplômé de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, vous avez passé une thèse de doctorat sur l'algèbre numérique et l'algèbre de la logique, suivi d'une thèse de doctorat d'État sous la direction de philosophe de Santi, consacrée à la pensée du logicien Boole, qui est un scientifique anglais du 19e siècle et qui est considéré comme l'ancêtre de la logique informatique pour aller vite. Vous avez enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la Northwestern University de Chicago, et depuis 2008, vous êtes professeur à Columbia University. Vous avez publié notamment, je ne vais pas citer tous vos ouvrages, Les lois de la pensée de George Boole, Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la philosophie du droit, L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique. Première question, c'est qu'est-ce qui fait que beaucoup de francophones finalement optent pour les États-Unis pour enseigner? Qu'est-ce qu'il y aurait dans le système d'enseignement universitaire américain qui fait que beaucoup d'Africains, beaucoup de gens du Sud s'épanouissent là-bas, tout en poursuivant malgré tout en parallèle leur œuvre en langue française?
Écoutez, je vais revenir à votre question. Je voudrais d'abord, à la suite de ce que vous avez dit, dire quel est mon bonheur de me retrouver au Salon du Livre de Genève. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici et qui participent à cette conversation que nous avons ensemble. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous l'avez rappelé, nous nous connaissons sans nous connaître, puisque ça fait de nombreuses années que nous sommes en correspondance. Nous avons une convergence certaine dans les champs que nous investissons, vous et moi. Nous nous retrouvons en convergence également sur un certain nombre de thématiques liées à l'islam dans le monde aujourd'hui. Et vous avez raison de dire que c'est une question majeure qui interpelle les intellectuels nés dans le monde musulman. Et je suis donc ravi que cet entretien se déroule entre vous et moi et que l'occasion de nous rencontrer nous soit offerte ici en Suisse, à Genève. Alors, vous avez parlé de mon... Vous savez, on prend toujours des décisions individuelles, les trajectoires sont toujours des trajectoires individuelles, mais au bout du compte, on se rend compte que les trajectoires, la sienne propre et les trajectoires de beaucoup d'autres convergent et qu'au bout d'un moment, ça commence à faire une sociologie. Ma propre trajectoire, il était improbable au départ qu'elle me mène aux États-Unis, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai fait toutes mes études en France, mes études supérieures en France. S'il y a un pays où j'aurais pu rester autre que le mien, ça aurait été la France plutôt que les États-Unis. Mais après mes études, j'avais décidé de rentrer au Sénégal, de créer un certain nombre de choses dans le domaine qui est le mien, qui est le domaine de la philosophie. Je l'ai fait, j'ai enseigné à l'Université de Dakar pendant 20 ans. À ma sortie de l'école normale supérieure, je suis rentré, j'ai enseigné pendant 20 ans. J'ai créé là-bas un enseignement de philosophie islamique, nous y reviendrons. C'est un peu dans ce cadre-là que je me suis mis à réfléchir au thème qui nous réunit. Un enseignement de logique, mathématique aussi, vous avez rappelé que ça faisait partie de ma formation. Et c'est au bout de 20 ans, quand on a fait appel à moi à Chicago, que j'ai pensé que j'avais, d'une certaine façon, le droit maintenant, après être resté chez moi pendant 20 ans, avoir travaillé chez moi pendant 20 ans, avoir écrit des choses qui ont attiré l'attention sur le plan international, mais à partir de Dakar, je tenais à ce que ça soit à partir de Dakar, j'ai pensé qu'il m'était loisible maintenant de travailler dans des conditions quand même plus faciles, dans les grandes universités américaines, où le travail intellectuel que l'on produit est infiniment plus facile. Voilà ce qui m'a amené aux États-Unis. Mais vous avez raison de souligner que, au-delà de ma trajectoire personnelle, il y a un mouvement sociologique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires africains se retrouvent dans les grandes universités américaines. En cela, d'ailleurs, ils ne font que refléter une situation qui est une situation mondiale. C'est que beaucoup d'universitaires de partout, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Australie, de l'Asie, se retrouvent dans les grandes universités américaines. Donc, de ce point de vue-là, les Africains ne sont pas dans une situation qui leur serait particulière. C'est simplement l'attractivité qui est un signe des temps, de non-temps, l'attractivité des grandes universités américaines pour le monde entier. Maintenant, ce que cela, au-delà du fait que cette nouvelle diaspora intellectuelle africaine s'est installée aux États-Unis, il y a un phénomène qu'il faut souligner, qui est très important une fois que l'on a dit cela, c'est qu'il y a une créativité, une productivité intellectuelle africaine aujourd'hui qui a pour lieu l'Amérique. Il se passe dans les universités, dans le monde académique américain, pour les Africains qui sont installés aux États-Unis, un peu l'équivalent de ce qui se passait autour de présence africaine à Paris dans l'entre-deux-guerres. Vous avez une espèce de diaspora qui se retrouve là, qui travaille ensemble dans le domaine qui est le mien, par exemple. Beaucoup d'ouvrages de référence concernant la philosophie en Afrique sont aujourd'hui publiés aux États-Unis par des Africains qui viennent du monde anglophone comme du monde francophone et qui se retrouvent là-bas pour créer une communauté justement où la langue n'est plus le facteur de division qu'elle constitue par exemple sur le continent africain. Autrement dit, entre philosophes africains francophones et philosophes africains anglophones, on se fréquente beaucoup moins sur le continent africain alors que nous nous retrouvons très facilement pour travailler ensemble sur le continent américain ou autour du monde académique américain.
J'ai évoqué votre formation. Vous êtes ce qu'on peut appeler communément un savant. Vous êtes à la fois très à l'aise dans le monde des sciences exactes et aussi pleinement engagé dans une production, une réflexion dans le domaine des sciences sociales et dans la philosophie en particulier. Et ce qui caractérise votre pensée, c'est que vous êtes dans le mouvement à travers des disciplines, donc de la logique booléenne, la philosophie du soir, en passant par celle de l'élan vital, et vous êtes à travers l'écriture, les cultures, vous traversez les cultures françaises, américaines, sénégalaises, et les traditions savantes, donc gréco-latines, islamiques et africaines. Et j'aimerais voir comment vous faites pour... quel est le continuum qui fait que vous traversez avec une élégance, une précision, une finesse, des vastes ensembles, des paysages mentaux très différents, et il y a une sorte de, non-violence, je dirais pratique et civilisée, dans votre manière de penser, sur des sujets ardus, des fois qui sont de source de conflits et de violence, et vous rapprochez aussi des individus très très différents, très éloignés les uns des autres, géographiquement, mais peut-être pas culturellement. Un Français comme Henri Bergson, un Indien comme Mohamed Iqbal, un Sénégalais comme Léopold Sédar Senghor. Donc, est-ce que vous seriez, comment qualifieriez-vous votre philosophie transculturelle et qui regarde un monde qui est post-occidental et dont l'islamité, l'africanité seraient entre autres des parties prenantes?
C'est un vaste ensemble de questions. Vous savez, il y a déjà d'abord le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la vie qui fait que on se retrouve à traverser des paysages intellectuels, des paysages culturels extrêmement différents. Vous l'avez dit, en me présentant, je nais au Sénégal où je grandis, je fais mes études en France et je fais des études en philosophie qui sont des études très spécialisées autour de la logique, de l'histoire et de la philosophie des mathématiques. Et au moment où je rentre chez moi à Dakar, mon intention est celle-là, de constituer un cursus dans ce domaine très précis, très pointu, qui est le domaine de la logique et de la philosophie des sciences. Et c'est le mouvement de la vie qui fait que finalement, on se met à s'intéresser à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré chez moi, ça voulait dire également être partie prenante d'un débat proprement africain sur des thématiques qui étaient des thématiques africaines. Et je me suis engagé dans ce champ-là aussi. Par ailleurs, le Sénégal est un pays majoritairement musulman. Cela veut dire que ce qui se passe dans le monde islamique a un retentissement certain chez nous. Le débat autour de l'islam, sur sa modernité, sur son principe de mouvement, etc., on ne peut pas y échapper. Je me suis également engagé dans ce débat-là. C'est donc la raison pour laquelle je dis que c'est d'abord le mouvement de la vie qui m'a fait traverser ces différents domaines. Ensuite, j'ai en quelque sorte organisé leur rencontre, c'est vrai. L'exemple que vous avez choisi est le meilleur qui soit. Un philosophe comme Henri Bergson, français, d'origine juive, attiré par le catholicisme, qui est au bord de la conversion, qui ne se convertit pas finalement, et qui pourtant exerce une influence énorme sur deux êtres aussi éloignés que possible, l'un, l'Indien Mohamed Iqbal, qui est musulman et qui travaille à ce qu'il a appelé lui-même une reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, et pourtant dans cette reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, il trouve à nourrir sa réflexion sur la tradition intellectuelle islamique et sur le Coran grâce à l'œuvre de Bergson. Voilà donc une influence qui s'exerce de Bergson à ce philosophe et poète indien. Par ailleurs, l'influence de Bergson sur Léopold Sédar Senghor, le philosophe, poète et homme d'État et penseur chrétiens et sénégalais également. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Senghor découvre l'œuvre de Iqbal, il considère qu'il a trouvé en lui, en cet autre poète, en cet autre penseur du monde colonial, un véritable frère. Leur fraternité s'explique précisément par le rapport commun qu'ils ont au philosophe Bergson. Alors ce triangle est un triangle magnifique que j'ai eu beaucoup de plaisir et de bonheur à explorer dans un certain nombre d'ouvrages. Un que j'ai consacré à Iqbal tout seul, un autre que j'ai consacré à Senghor tout seul, et le troisième, Bergson postcolonial, dont vous avez parlé tout à l'heure, que j'ai consacré à la rencontre de Senghor et de Iqbal à travers Bergson. Mais c'est vrai que la pensée philosophique, au fond, devient créatrice lorsqu'elle s'effectue dans la rencontre. Quelqu'un m'avait présenté une fois comme un philosophe de la traduction. Je crois que c'est le titre dont je me parle plus volontiers, que j'aime le mieux, parce qu'effectivement j'estime que je suis un traducteur, un passeur à ma manière, entre des mondes différents, et donc j'espère réussir à montrer dans ce que j'écris la cohérence et la convergence.
Avant d'aborder cette question de cette notion de traduction qui est essentielle pour comprendre votre œuvre, et pour en revenir donc à ce dernier ouvrage, Comment philosopher en Islam, je vais revenir juste à la question du point de vue d'où vous êtes parti. Parce que je constate dans ce livre qu'il y a une performance, parce que vous explorez 14 siècles d'une des plus importantes cultures savantes de l'humanité, mais dans un ouvrage relativement conçu et concis, et avec une élégance, une légèreté, c'est-à-dire que vous ne faites pas une histoire de la philosophie islamique, vous évitez le lourd appareillage critique des ouvrages de philosophie qui en font, pour le non-professionnel, souvent des ouvrages fastidieux à lire. Et donc, vous évoquez les questions essentielles et vous parcourez les siècles. Et je ne peux m'empêcher de noter à travers à la fois cette concision, cette précision, cette douceur, le fait que qu'il y a peut-être quelque chose de votre pays qui est dans le concert de la vie, le concert des nations. Le Sénégal est une nation qui avance somme toute assez paisiblement et de manière somme toute assez aboutie. Donc, depuis. Il y a une non-violence sur le plan politique qui a toujours caractérisé ce pays, une alternance du pouvoir qui se fait de manière plutôt sereine depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, qu'est-ce que vous devez, dans votre manière de voir et de penser le monde, y compris la question de l'islam, à votre terre natale, au terroir spirituel, au pluralisme qui s'exprime aussi sur les plans politiques, culturels, artistiques?
Écoutez, vous me faites envisager l'hypothèse que cela soit une sorte d'esprit du Sénégal qui se manifeste dans ce que j'écris. J'espère que vous avez raison, j'espère que c'est bien cela. Mais c'est vrai, ce que vous avez dit du Sénégal me frappe par sa justesse. Vous savez, le Sénégal est un pays qui a un instinct démocratique profond. Je crois que nous avons des problèmes comme tout le monde. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, évidemment. C'est également un pays pauvre. Et vous savez, normalement, la pauvreté ne fait pas bon ménage avec la démocratie. Mais c'est précisément là, dans un certain état d'esprit, que se trouve peut-être la richesse véritable et l'instinct démocratique d'une nation. Et ceci n'est pas étranger à ce que je dis dans cet ouvrage à propos de l'islam. Il y a un islam des Lumières, on pourrait l'appeler ainsi, qui a deux sources. Une source qui est une tradition critique et une tradition philosophique. Une tradition de pensée libre et une tradition inquiète de Dieu. Il y a une manière dans la philosophie d'être inquiet de la vérité en général et d'être inquiet de la vérité religieuse en particulier qui fait un esprit d'ouverture. Quand vous êtes vraiment inquiet de Dieu, vous êtes également ouvert. Vous ne reposez pas sur des certitudes qui sont en général des certitudes construites à la hâte et qui font de vous un fanatique. Au contraire, vous êtes toujours attentif à la différence et vous êtes ouvert à cette différence. Il y a une signification de la tolérance qui est une signification absolument minimale de la tolérance, qui consiste à dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu es et la manière dont tu penses, mais bon, je te tolère ». Il y a une autre manière qui est liée à ce que je viens de dire de l'inquiétude de la vérité, qui consiste à se dire que dans ta différence, tu m'enseignes quelque chose, à la fois quelque chose de ce que toi tu es, et quelque chose de ce que moi je suis. Si nous partageons la même condition humaine, la manière dont tu vois le monde, la manière dont tu possèdes le monde, doit pouvoir m'enseigner quelque chose sur la manière dont moi je vois le monde et dont je possède le monde. Alors c'est cela que j'appelle être inquiet de la vérité, n'être jamais en repos, être toujours dans une démarche de recherche où vous estimez que celui qui pense autrement que vous, celui qui est différent de vous, vous enseigne quelque chose. Et il y a deux écoles de pensée dans l'islam qui ont cette attitude-là. L'une, c'est la tradition philosophique. C'est elle dont je raconte, si vous voulez, la trajectoire dans cet ouvrage. Et l'autre, c'est la tradition mystique, la tradition soufie. Et ces deux traditions, quelles que soient leurs différences, l'une étant plus du côté de la raison sceptique et questionnante, l'autre étant plus du côté, disons, de l'émotion et du cœur et de la coïncidence avec soi-même, avec Dieu. Mais pour des, malgré cette différence, ces deux écoles de pensée se retrouvent dans le même esprit d'ouverture parce que c'est un esprit d'inquiétude pour la vérité et de la vérité, d'inquiétude pour Dieu et de Dieu. Quel est le lien avec le Sénégal? J'ai fait un long détour. Quel est le lien avec le Sénégal? C'est que le Sénégal a précisément été en Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on appelait le Soudan, qui est l'expression raccourcie arabe « Bilad al-Soudan », le pays des Noirs. Le Sénégal a été le réceptacle de cette tradition soufie en islam. Le Sénégal est une sorte de paradis des ordres soufis. Et je crois que quelque chose de cet esprit-là est véritablement présent en terre sénégalaise, qui fait que lorsque les conflits se nouent, lorsqu'on a l'impression que le Sénégal va basculer lui aussi dans la violence que d'autres pays ont connue, il y a toujours ce moment quasiment miraculeux où les choses se dénouent, où cet instinct démocratique et cet instinct de tolérance, au fond, rejaillit et nous permet de régler les problèmes de la manière que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons eu deux alternances tout à fait paisibles et nous partons pour, normalement, des siècles et des siècles d'alternance, Inch'Allah. Voilà, donc si cet esprit-là, vous estimez qu'il se retrouve dans mon texte, j'en suis ravi. Je me permets de revenir, ce n'est pas de la gloriole, mais je reviens sur le compliment dont je vous remercie que vous m'avez fait, sur l'élégance de mon écriture. J'ai constaté effectivement que depuis que je suis exilé de ma propre langue, c'est-à-dire je travaille en anglais la plupart du temps, je pense en anglais, je travaille en anglais, j'enseigne en anglais, mais j'ai une sorte de chaque fois que j'écris en français, ça devient une sorte de déclaration d'amour à ma langue. Qui est le français, et c'est vrai que j'ai tracé les mots de ce livre avec comme autant de moments de déclaration d'amour à la langue française.
Alors, une des clés pour comprendre votre manière de philosopher est la traduction. Vous donnez à cette notion une dimension épistémologique et un rôle dans la connaissance, dans l'accès à la connaissance, par-delà la question des langues et du rapport entre l'oralité et écriture. Et il faut considérer aussi aujourd'hui le passage à la civilisation du numérique, qui nous fait rentrer dans une nouvelle ère intellectuelle. Et donc, traduire, c'est restituer une pensée, une parole à l'écrit, c'est tout en comprendre pour ne pas avoir de déperdition du message original, mais c'est également trahir, c'est altérer, modifier, augmenter le jet et l'objet originel. Et philosopher en islam, c'est ce que vous montrez dans votre livre, a intimement rapport avec une langue, l'arabe, qui fut un temps aussi, il faut le préciser, la lingua franca des sciences, et dont témoignent des traces dans certaines notions comme l'algèbre mathématique, algèbre, dont vous êtes spécialiste d'ailleurs, et ou encore la notion d'algorithme, qui aujourd'hui est le mot le plus sophistiqué que l'on a pour décrire la résolution pas à pas d'un programme ou d'un problème informatique, et qui est dérivé, comme chacun le sait, du nom du mathématicien Al-Khwarizmi du 9e siècle. Et donc, ce que je remarque, c'est que, et ce que vous faites remarquer aussi, c'est que l'arabe fut donc la langue d'accueil, et en tout premier lieu de la philosophie grecque, mais qu'elle a commenté et augmenté, mais elle a aussi fait l'objet d'une traduction en latin, et puis il y a eu un incessant processus d'échange et de traduction entre les langues latines, celles de la Perse, de l'Inde, de l'Afrique. Donc, pour vous, donc, la traduction est un opérateur non seulement anthropologique, mais véritablement philosophique. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi vous accordez tant d'importance à cette notion dans l'acte même de philosophie. Quelle est sa portée, si on peut dire, heuristique dans le monde du 21e siècle, qui est marqué autant par un effet de standardisation dans le monde, mais aussi par la différenciation de croissante de nos sociétés.
Oui, vous avez raison de dire que la traduction est au centre de ce que je fais. D'abord, il y a le fait que la question de la traduction et du devenir philosophique des langues par la traduction m'intéresse beaucoup. Vous savez, prenons la philosophie grecque. Et là, on a des philosophes ont déclaré que le grec était par excellence la langue de la philosophie. Bon, toutes les langues sont potentiellement des langues de la philosophie. Mais précisément, j'aime regarder la manière dont les langues deviennent des langues philosophiques et des langues de la philosophie lorsqu'elles traduisent, c'est-à-dire lorsqu'elles transfèrent dans les cultures dont elles sont la manifestation, dont elles sont l'expression, une culture philosophique venue d'ailleurs. Cela s'est d'abord passé pour le latin. Quand le monde romain s'est incorporé au monde grec, les penseurs latins étudier la philosophie d'abord en grec. Si on regarde le travail de Cicéron est le premier à se dire, mais au fond, pourquoi est-ce que nous pensons que la philosophie doit se dire nécessairement en grec et que nous autres romains, si nous étudions la philosophie, nous devons l'étudier en grec? Est-ce que notre langue n'est pas elle-même propre à porter la pensée philosophique? Et il y a un certain nombre de textes majeurs de Cicéron, des biens et des mots, etc., où il regarde des équivalents latins de tel ou tel mot de la philosophie grecque. Et aujourd'hui, avec le recul, nous savons que la philosophie, pendant très longtemps, s'est exprimée au contraire en latin. La philosophie médiévale, jusqu'à Descartes en France, était écrite en latin. On a du mal à se retrouver dans la période où Cicéron se demandait si le latin était propre à recevoir la philosophie grecque. L'histoire a donné une réponse positive à cela. La même chose s'est passée dans le monde arabe. Dans le monde arabe, il s'est agi aussi de traduire la philosophie grecque en arabe. Et cela, une langue, lorsqu'elle reçoit ainsi des traductions, ne reste jamais elle-même en l'état. Elle se transforme. Elle devient une langue hybride. D'ailleurs, c'est une histoire que je raconte dans mon livre. Les grammairiens arabes se sont offusqués des transformations que les philosophes faisaient subir à la langue. Ils avaient l'impression que ces philosophes parlaient comme des cochons, avec des néologismes à n'en plus pouvoir, des manières de déformer les manières habituelles de parler, etc. etc. Or, c'est le propre d'une langue, c'est la vie même d'une langue, que de se renouveler et de se transformer sous l'effet des traductions que cette langue reçoit. Cet aspect des choses m'intéresse énormément, donc la manière dont les langues deviennent philosophiques par traduction. La même chose s'est passée pour toutes les langues européennes, d'ailleurs. L'allemand, ça commence d'abord par la traduction de la Bible par Luther, et également l'habitude, à partir de ce moment-là, d'écrire la philosophie en allemand. C'était la même chose lorsque Descartes a pris la décision d'écrire la philosophie en français. Ce sera la même chose lorsque les langues africaines, nos langues en Afrique, ne seront plus simplement des langues qui sont confinées à des interactions privées, mais deviendront également des langues de la science, des langues de la philosophie, des langues de la littérature. Ce qu'elles sont en train de devenir en ce moment même. Et ce qu'elles avaient commencé déjà d'ailleurs depuis plus longtemps, parce que ce transfert de la philosophie du grec au latin, du grec à l'arabe, ça a également intéressé beaucoup de régions africaines, puisque l'islamisation de l'Afrique, nous en parlions tout à l'heure, a signifié non seulement l'adoption d'une nouvelle religion, mais l'adoption également d'un certain nombre de disciplines, dont la discipline philosophique, qui était une discipline enseignée dans le monde islamique. Ça, c'est un premier aspect de la traduction, qui est le devenir philosophique des langues sous l'effet de la traduction. Il y a un second aspect dont vous venez justement de parler, qui est que la traduction, ce n'est pas seulement faire passer d'une langue à une autre un certain contenu en faisant en sorte que ce contenu subisse le moins de déperditions possible. Ça n'est jamais possible. Quand le mot italien traductore et traditore le dit bien, traduire, c'est toujours trahir. C'est-à-dire que la traduction ne suppose pas une transparence absolue à 100% où on fait passer un contenu d'une langue à une autre comme si les langues elles-mêmes ne transformaient pas ce contenu. Il y a toujours un fond profond d'opacité dans l'opération de traduction. Tous ceux qui ont eu à traduire des œuvres, qu'elles soient philosophiques ou littéraires, à les faire passer d'une langue à une autre, savent que, comme dit le philosophe Ricoeur, qui a pensé à la, qui a réfléchi à la notion de traduction, il y a un bonheur de la traduction, c'est-à-dire qu'au bout du compte, la traduction s'accomplit, mais il y a également une sorte de travail de deuil, parce qu'on mesure toujours dans l'opération de traduction toute la part de résistance, toute la part d'opacité qu'on n'arrive pas à faire passer d'une langue à une autre et pour laquelle on invente des détours. On est créatif, le traducteur est un créateur. Donc ça aussi, c'est un autre aspect de la traduction qui est un aspect très important et auquel j'aime réfléchir, qui est précisément que la rencontre dans la traduction, la rencontre de deux langues, la rencontre de deux cultures dans la traduction, se fait à la fois sur une volonté de transparence. Il faut faire transparaître les deux cultures l'une à l'autre, il faut les faire converger, il faut les faire se rencontrer, mais également cette opération ne s'effectue que sur un fond d'opacité. On mesure davantage l'opacité de l'autre culture, l'opacité de l'autre langue, et lorsqu'on fait l'effort d'aller au-delà de cette opacité, on a une sorte de récompense double. Ça, c'est un deuxième aspect de la traduction qui m'intéresse. Troisième et dernier aspect, quand vous dites que la traduction, il y a toute une épistémologie qui est engagée dans la traduction, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « La traduction comme méthode ». Je trouve que la traduction, c'est également une posture que l'on a, une attitude que l'on a dans le monde. Savoir s'installer entre plusieurs langues, soi-même, c'est une manière d'apprendre à se décentrer. Si je passe du français à l'anglais, de l'anglais à l'arabe, au wolof, etc., si j'écris dans ces différentes langues-là, je me décentre et je m'étudie et j'apprends quelque chose de moi-même en opérant ce décentrement permanent d'une langue à une autre. Vous savez, c'est le poète Goethe qui disait « si on ne connaît que sa propre langue, alors on ne connaît pas sa langue ». Parce que c'est vrai que si vous ne pouvez pas regarder votre langue depuis une autre langue, depuis d'autres manières de dire qui vous font prendre conscience du fait que les manières de dire dans votre propre langue ne sont pas naturelles, puisque les mêmes choses se disent de manière totalement différente, vous apprenez quelque chose de votre langue elle-même. Et donc pouvoir avoir cette attitude d'entre-langue, s'installer entre les langues, être un traducteur en permanence, étudier un problème, si vous avez un problème philosophique, l'étudier en le faisant passer dans des langues extrêmement différentes. Cela vous enseigne quelque chose du problème, cela vous enseigne quelque chose de la langue où ce problème a été d'abord formulé, et cela vous enseigne quelque chose de la langue dans laquelle vous traduisez ce problème-là. Alors cette attitude d'entre-langue est la troisième signification de la traduction qui m'intéresse.
Dans le cadre de la naissance, l'émergence de la philosophie en islam, c'est un fait avéré que dès les débuts, il y a eu une traduction découverte des sages de la Grèce antique, mais on voit que dès le début, un certain nombre de questions philosophiques, de problèmes philosophiques et théologiques sont propres à l'islam, propres à l'histoire, à la naissance de la révélation, de la mise en livre du texte coranique, à l'organisation de la communauté, la première communauté islamique. On voit qu'un certain nombre de problèmes vont être traités sur un plan philosophique et relatif, vraiment spécifique de l'islamité dans le cadre, dans une perspective philosophique. C'est la question du prédéterminisme, du libre arbitre, de la création, de l'incréation divine du Coran, de l'attribution des attributs de Dieu. Tous ces problèmes sont évoqués dans votre livre, au début de votre livre. La naissance du mouvement rationaliste des Mu'tazilites, la question du commentaire des textes coraniques. Et donc, j'aimerais savoir comment établirez-vous une catégorie, quel genre de problème cela génère comme premier et grand vaste sujet de philosophie et qui nous font aussi problème jusqu'à nos jours.
Absolument. Avant le moment de la traduction des œuvres philosophiques grecques dans le monde de l'islam en arabe et donc le développement d'une tradition philosophique liées à la pensée grecque dans le monde islamique, il y a eu ces premières questions théologiques que vous faites bien de rappeler. Questions théologiques qui se sont posées d'ailleurs aux trois religions abrahamiques. On les retrouve dans le christianisme comme on les retrouve dans le judaïsme. Une première question importante, c'était celle de la liberté humaine ou de la prédétermination des actes divins. Est-ce que si Dieu a des attributs de toute puissance et d'omniscience, est-ce qu'il y a encore une place dans cette cosmologie pour quelque chose comme une liberté humaine, un libre arbitre humain? Est-ce que je peux dire que je décide librement de mes actes et de la trajectoire que je décris avec ma vie, si par ailleurs la toute-puissance divine m'a créé et a déjà tracé mon propre destin? Ça, c'était une grande question qui s'est posée dès les débuts de l'islam chez les théologiens. Une deuxième grande question qui s'est posée, c'était, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la question des attributs de Dieu. Si vous prenez la Bible, si vous prenez le Coran, Dieu y est décrit dans les textes abrahamiques, dans les textes des trois grandes religions monothéistes, avec un certain nombre d'attributs. Certains sont des attributs anthropomorphiques. On parlera de la main de Dieu, de la face de Dieu. Le Coran a même une expression sur Dieu qui s'assoit sur son trône. Au-delà de ces attributs anthropomorphiques, vous avez des attributs qui peuvent être des attributs qu'on dira contradictoires. Dieu est vengeur, Dieu règle des comptes, mais par ailleurs Dieu est miséricordieux, Dieu efface les péchés. Donc ces attributs, si on les étudie séparément, peuvent paraître contradictoires les uns aux autres. Or, on n'a pas envie de faire entrer de la contradiction dans l'essence divine. On n'a même pas envie de faire entrer la multiplicité dans l'essence divine, parce que tous ces attributs semblent être une manière de réintroduire du pluralisme, de la pluralité, là où il devrait y avoir l'unicité et la simplicité de l'essence divine. Ça aussi, c'était un deuxième grand problème théologique. Troisième grand problème théologique, le Coran, créé ou pas? Dans les deux camps, ceux qui disaient qu'il était créé et ceux qui disaient qu'il n'était pas créé, tous les deux camps s'accordaient pour dire c'est la parole de Dieu. Mais une fois qu'on a dit c'est la parole de Dieu, il faut l'entendre. C'est une parole infinie et divine, mais qui est entrée dans la finitude d'une langue humaine. Et qu'est-ce que cela veut dire que cette parole est entrée dans la finitude d'une langue humaine? Est-ce que cela signifie qu'elle est une expression de l'essence de Dieu, ou est-ce que cela signifie que cette parole est également engagée dans l'histoire et dans l'histoire humaine, faite de transformation, faite d'évolution, faite de nouveauté, puisque la vie elle-même est transformation, nouveauté et évolution. Vous voyez donc les enjeux qui sont liés à ces trois grandes questions théologiques. Et sur ces grandes questions théologiques, les écoles d'interprétation islamique vont se séparer. Vous allez avoir des écoles rationalistes qui vont apporter à ces questions-là des réponses rationnelles et rationalistes, et vous avez des écoles, elles, plus littéralistes qui vont essayer de dire n'allons pas trop loin dans le raisonnement, n'allons pas trop loin dans le questionnement, parce qu'on risque de tomber à ce moment-là dans l'infidélité. Prenons les choses littéralement telles qu'elles sont écrites dans le livre, et même si nous ne les comprenons pas rationnellement, c'est le mystère insondable de Dieu. Ces deux écoles vont vivre encore avec nous. Vous avez ces deux manières d'entendre les choses, une manière qui est une manière qui questionne, une manière qui cherche à comprendre, une manière qui vise toujours l'ouverture, et une autre manière qui est une manière plus fermée, repliée sur une compréhension qui devrait être la même, identiquement à elle-même, partout, et à travers les temps, et c'est une école plus conservatrice, plus fondamentaliste par rapport à une école plus rationaliste et plus ouverte. Et vous avez raison de dire que ces deux interprétations, ces deux manières de voir nous accompagnent encore aujourd'hui, sont à l'œuvre dans nos conceptions aujourd'hui de l'islam. L'attitude la plus rationaliste a un moment donné triomphé, si on entend par triompher le fait que le pouvoir politique s'est reconnu plutôt dans cette école-là que dans l'autre. Et ce n'est pas une coïncidence si c'est au moment où les khalifs de l'islam étaient de l'école mu'tazilite, cette école plus rationaliste, qu'ils ont fait bon accueil à la philosophie grecque, qu'ils ont encouragé les opérations de traduction de la philosophie grecque parce qu'ils estimaient que cette sagesse grecque n'était pas une sagesse étrangère, dans la mesure où, au fond, aucune sagesse, si elle était vraiment une sagesse, n'était étrangère à l'humanité partout où elle pouvait se trouver.
Derrière ces autres questions philosophiques, il y a d'un côté, on voit toute la beauté, la profondeur de la réflexion de la philosophie en islam, mais on voit aussi toute la tragédie, c'est un peu, peut-être le temps manque de le développer, toute la tragédie du lien, du rapport au pouvoir. Parce que derrière ces notions éminemment, qui sont presque platoniciennes, est-ce que le Coran est créé divinement ou incréé, on voit que derrière, il y a en fait la légitimation d'un pouvoir en place. Hein, les Omeyyades, la création de la dynastie Omeyyade, peu de temps après la mort du prophète, finalement, c'est un coup de force dans l'histoire, c'est instaurer la royauté héréditaire. Et donc on voit que derrière toutes ces grandes questions, il y a la légitimité du pouvoir et l'inféodation du religieux. Et c'est un problème qui, jusqu'à présent, pose problème. Quand on évoque aujourd'hui, nous sommes tous des artisans, on défend l'idée d'un rationalisme. Mais il y a un paradoxe là aussi, c'est que le rationalisme a triomphé très tôt, trop tôt dans l'histoire de l'islam, et il y a eu une inquisition de la raison qui a fait que les grands théologiens ont dû être emprisonnés, soumis à la torture pour leurs idées. Et maintenant, ces mêmes théologiens sont, je pense à Ibn Fendon ou Ibn Taymiyyah, sont les maîtres avancés des mouvements les plus conservateurs, des mouvements les plus salafistes. Et donc, le problème, c'est cette inversion, c'est qu'on dit toujours l'encre du savant est plus sacré que le sang des martyrs, mais dans la réalité historique, ne trouvez-vous pas que c'est le sang des martyrs qui est devenu l'encre des savants, malheureusement.
Je suis en accord parfait avec vous lorsque vous dites que le problème ce n'est jamais le débat d'idées. Le débat d'idées, par définition, il faut l'accueillir. Le débat d'idées est une bonne chose, c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, le progrès humain ne se réalise que lorsqu'il y a débat et lorsqu'il y a confrontation d'idées. Le problème arrive lorsque, maintenant, ce combat, ce conflit des interprétations, ce débat d'idées est pris en charge par le pouvoir politique. Quand il ne s'agit plus simplement de la confrontation entre deux manières de voir, mais lorsque le pouvoir politique lui-même a intérêt à imposer une certaine manière de voir. Alors là, effectivement, les intellectuels, dont c'est pourtant la fonction de débattre et de ne pas être en accord, se retrouvent inféodés au pouvoir politique qui a besoin à ce moment-là d'affirmer telles idées plutôt que telles autres. Vous avez parlé tout à l'heure des Omeyyades. Sur le problème théologique du libre arbitre humain, est-ce qu'il y a une liberté humaine réelle ou bien est-ce que tout est prédéterminé? Est-ce qu'il y a une prédestination absolue ou bien est-ce que je suis libre d'agir selon la manière dont je comprends les choses, selon la manière dont je vois les choses? C'était un débat. Vous aviez deux écoles. Les uns pensaient en faveur du libre arbitre, les autres pensaient qu'il y avait une prédestination. Quand les Omeyyades s'en sont mêlés, les Omeyyades ont imposé la théologie de la prédestination. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes étaient arrivés au pouvoir, vous l'avez dit, par une espèce de coup de force où ils ont instauré un principe qui jusque-là n'existait pas dans l'islam, qui était le principe dynastique. Et en plus, leur règne, au début et d'ailleurs de tout temps, a été un règne sanglant. Donc ce pouvoir politique-là avait intérêt, au fond, à établir un principe théologique de prédestination qui faisait à la fois que les populations devenaient fortement conservatrices. Si je suis le pouvoir en place, j'aime bien que les masses que je domine crois en la prédestination, au fait que j'étais prédestiné à me trouver à la place où je suis, et au fond, ça les encourage dans un certain conservatisme et dans une certaine passivité par rapport à mon propre pouvoir qui, par la force des choses, aura été décrété par Dieu. Par ailleurs, ils avaient besoin également que tous ces événements sanglants qui avaient accompagné leur accession au pouvoir soient mis sur le compte de la prédestination. Si c'était écrit, parfois, d'une certaine façon, c'est compréhensible, c'est excusable, etc., etc. Donc voilà un exemple très concret où le pouvoir politique intervient dans un débat qui devrait rester un débat philosophique de confrontation d'interprétations différentes, mais son intervention est pour assurer une certaine direction à la pensée, une direction qui profite à ce pouvoir politique. Et vous avez raison de dire que nous vivons cette même situation aujourd'hui. Le problème dans l'islam, ce n'est pas qu'il y ait des interprétations multiples. Toutes les écoles de ce point de vue-là se valent d'une certaine manière parce que tout repose sur une lecture du texte. Et un texte devrait être ainsi fait qu'il est vivant et qu'il est ouvert à toutes les interprétations, qu'il se prête à des interprétations. Maintenant, le problème arrive lorsque vous avez ce qu'on appelle, plus justement d'ailleurs que l'islamisme, un islam politique, c'est-à-dire des groupes précis, avec des agendas précis, qui veulent ou bien imposer une interprétation. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quand vous avez affaire à des gens qui sont suffisamment d'ailleurs eux-mêmes informés pour avoir une vraie interprétation. Ou alors, ce que vous avez malheureusement aussi, et ce qui fait le plus de bruit, des gens totalement ignorants de tout, qui ne sont même pas en faveur d'une interprétation quelconque, mais qui sont simplement des suicidaires et des assassins. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut rappeler la tradition prophétique que vous avez rappelée tout à l'heure. Il faut toujours rappeler ce dire prophétique selon lequel l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs. Ceux qui croient servir Dieu en tuant et en se faisant tuer, cette tradition dit très clairement qu'il n'y a aucun mérite à cela et que le mérite, lui, est dans la réflexion de ceux qui font l'effort d'interprétation, ceux qui font l'effort de garder une religion ouverte, c'est-à-dire ouverte à des interprétations multiples, et qui écrivent dans ce sens.
L'encre des savants, je rappelle que c'est aussi le titre d'un de vos derniers livres. Effectivement, juste une remarque, de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est particulièrement exposée à une sorte de géopolitique des religions, avec des religions qui sont orientées vers le marché, d'une part une sorte d'impérialisme culturel qui est d'enjeu autour du salafisme d'un côté, dans sa version aussi du wahhabi qui propage à coup de pétrodollars, mais de l'autre côté il y a un autre danger aussi, le prochain clash avec l'évangélisme, les mouvements évangéliques anglo-américains, anglo-saxons, qui aussi ont beaucoup de moyens, qui usent les communications, la télévision satellitaire, et donc nous sommes à une sorte de clash géopolitique, et l'Afrique est particulièrement exposée. J'aimerais aborder maintenant, nous diriger vers la beauté, parce que la beauté c'est aussi un guide. Vous êtes scientifique, vous savez vous-même que la beauté est un élément esthétique très important dans la formulation d'une idée, d'une équation, d'une hypothèse. Et votre livre évoque une histoire, un récit magnifique d'un philosophe andalou, né Ibn Tufayl, dit Abou Basr, né en Andalousie en 1105 et mort à Marrakech à l'âge de 80 ans. Ce récit, c'est l'histoire de Hayy ibn Yaqdan, qu'on peut traduire en français par vivant, fils de l'éveillé, et que la philosophe Séverine Offray nomme à juste titre Vivian, fils de l'éveil, dans une version de ce livre qui est paru aux éditions Mille et une Nuits, et que je recommande, je suis étonné que ce livre ne soit pas enseigné dès l'école primaire dans tous les pays du monde, parce que c'est un livre qui a une portée universelle, qui a été un best-seller au Moyen-Âge, sous le titre de philosophe autodidacte. C'est un roman philosophique, donc il y a une modernité. C'est l'histoire d'un nouveau-né qui grandit tout seul dans une île déserte, qui est accueilli par une gazelle et qui va pratiquement tout découvrir, la vie, la beauté de la vie, le sens de la vie, la relation à Dieu, la relation à la nature. Et il va découvrir cela. Et j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage, véritablement un personnage conceptuel. Donc j'aimerais insister que ce texte a aussi inspiré l'histoire de Robinson Crusoe, par Daniel Defoe. Et Séverine Offray fait remarquer, regardez, que dans cette histoire, ce best-seller, d'un côté, la version de Daniel Defoe nous dirige vers un Tarzan qui est un homme singe, tandis que dans la version du philosophe musulman, c'est Tarzan l'homme sage. Et j'aimerais que vous me parliez de cette histoire et de sa portée en tant que philosophe autodidacte. Comment un texte aussi simple, aussi lumineux peut-il être aussi phosphorescent sur le plan de cette dimension philosophique?
Vous avez raison de dire que ce livre a été une grande inspiration et qu'il a été traduit tôt dans plusieurs langues européennes. Il a commencé d'abord par être traduit en latin sous le titre que vous avez rappelé tout à l'heure, Philosophus Autodidactus, le philosophe autodidacte. Et c'est une histoire magnifique, c'est une histoire à la Tarzan ou à la Robinson Crusoe. L'auteur Ibn Tufayl imagine donc un enfant abandonné dès son plus bas âge. Alors déjà, un aspect magnifique de cette histoire, une modernité profonde de cette histoire, c'est que l'auteur laisse ouvertes deux possibilités. Une première possibilité serait que l'enfant soit né d'une sorte de génération spontanée, comme ça, de la terre elle-même, qui ait été portée par la matrice de la terre, ait été formée par la matrice de la terre. Ça, c'est une sorte de récit adamique. L'enfant serait l'équivalent d'Adam. Ou alors, l'enfant a été trouvé après avoir été mis dans un berceau et jeté à l'eau par sa mère, parce que sa mère avait des craintes pour elle-même et pour lui. Et ça, c'est la version mosaïque, c'est la version Moïse de l'histoire. Et le livre, de manière très subtile, laisse la possibilité ouverte que les deux versions soient vraies. Mais le fond de l'argument dans ce roman et la dramatisation, c'est que l'humain, livré à lui-même, a une sorte de disposition naturelle à connaître, une disposition naturelle à même retrouver en lui-même l'idée de son propre créateur, l'idée de Dieu. Et donc l'idée que l'humain, laissé tout seul, peut en quelque sorte refaire le parcours de l'humanité, retrouver les éléments de civilisation de l'humain, c'est ce que montre ce roman, parce qu'on voit le jeune garçon, Hayy ibn Yaqzan, faire usage de sa main, être homofaber, fabriquer des outils. Il réalise dans un premier temps qu'il est plus faible que la plupart des animaux avec lesquels il vit, mais il découvre qu'à la différence de ces animaux, il a une main avec un pouce opposable, et que donc il peut fabriquer des outils qui vont amplifier sa force et le rendre beaucoup plus fort que les animaux, alors que tout naturellement ces animaux ont des capacités physiques supérieures aux siennes. Ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, il va faire usage de sa raison et va retrouver tous les éléments de la civilisation humaine, le feu, etc. Et il va pouvoir également, à la fin, faire usage de sa raison théorique, de sa capacité de contemplation, de sa capacité de méditation sur le monde qui l'entoure et sur lui-même. Et au bout de son parcours, il va trouver une sorte de religion naturelle en lui-même, dans son propre cœur et dans sa propre raison. Et l'un des aspects les plus beaux de cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, il crée au fond une sorte de religion de la vie. Il s'estime à ce moment-là gardien du monde créé, parce que précisément, à la différence des autres êtres dont il a fait l'expérience, lui est capable de se relier à l'être qu'il a créé. Donc lui rendre hommage, c'est à la fois inventer un rituel pour montrer qu'il a conscience de cet être supérieur. Il invente la circumambulation. comme rituel pour rendre grâce à Dieu. Mais le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est au fond de s'instaurer gardien de sa création. Donc voilà quelqu'un qui va mettre en place une philosophie écologiste qu'on aurait besoin de lire aujourd'hui. Au fond, si on veut une philosophie de l'inscription de l'humain au sein de la Terre, au sein de l'univers et au sein de la nature, qui ne soit pas au contraire la domination de l'humain sur la nature, une domination technologique, je crois que vous avez raison de dire que la lecture de ce roman philosophique, Haïb Niyazan, serait pleine d'enseignements pour les écoles. Je signale d'ailleurs, pour en tirer un motif de gloire, que dans mon université à Columbia a un enseignement qui est un enseignement général pour tous les étudiants, quelle que soit la spécialité à laquelle il se destine. Si l'étudiant vient pour faire de l'astrophysique, pour faire de la chimie ou pour faire de la littérature anglaise, c'est pareil. En deuxième année, ils ont tous un cours d'histoire de la pensée en Occident. Et dans ce cours d'histoire de la pensée en Occident, ce roman de Haïb Niyazan a une place importante. Et c'est un roman que j'adore enseigner chaque année quand j'enseigne le core curriculum de Columbia University. J'adore enseigner ce roman et il plaît beaucoup aux étudiants par sa modernité, par sa fraîcheur, par la manière qu'il a de nous parler de questions qui nous touchent. Et il est à la fois philosophique, littéraire, et il est très émouvant au sens propre. C'est-à-dire que c'est un roman qui véritablement nous transporte.
Le temps file très vite et on se dirige vers la fin de cette conversation, de cet exercice de philosophie citoyenne et transculturelle. Et j'aimerais, je disais, la beauté sera notre guide, que vous évoquiez la notion, philosophique qui permettra de donner une idée de la clairvoyance de votre réflexion sur la notion de destin, la notion de fatalité. Beaucoup de philosophes à travers les âges, à travers les cultures, ont traité de cette question du fatalisme. Leibniz évoquait le fatum Mohamed Kanou comme le sophisme paresseux, l'idée que on se remet à Dieu pour toutes nos destinées. Mais il y avait après lui, il y a eu déjà Max Weber qui faisait quand même dans son éthique protestante et l'esprit du capitalisme la différence entre le dogme chrétien de la prédestination et le destin à la musulmane, si je puis dire. Il écrivait: l'islam croit à la prédétermination et non à la prédestination. Ce sont les destins de l'ici-bas qui sont arrêtés, en islam donc, et non le salut dans l'au-delà. D'un autre côté, nous avons le penseur Mohamed Iqbal qui dit: la destinée, c'est le temps considéré comme antérieur à la manifestation de ses possibilités. Et donc j'aimerais que vous nous parliez de ce fatalisme que Nietzsche, mais aussi des gens comme Deleuze, poètes comme Jean Bousquet, ont mis en avant. Le poète Jean Bousquet dit: ma blessure existait avant moi, je suis né pour l'incarner. Il dit: deviens l'homme de tes malheurs, apprends à incarner la perfection et l'éclat. Quel enseignement philosophique et spirituel pourrions-nous aujourd'hui faire de cet amour de la destinée du monde, de la destinée, cet amor fati, quelque chose qui soit aussi un amour du monde, un amour de l'adversité?
Je commence par le philosophe que vous avez évoqué, Leibniz. Leibniz a un système philosophique qui lui a valu l'accusation d'être un prédéterministe. Les adversaires de Leibniz lui ont reproché d'avoir un système philosophique où tout est déjà prédéterminé, tout est sorti, achevé du calcul divin. La création elle-même correspond à un calcul divin où tout est déjà tracé, donc tout est déjà déterminé. Et pour se défendre d'être déterministe et fataliste, Leibniz dit: non, mon système ne ressemble pas du tout à la théologie musulmane. C'est-à-dire que pour lui, il présente l'islam comme la religion du fatalisme par excellence, en disant que c'est ça le fatalisme, moi mon système se distingue de celui-là. Et c'est vrai que dans le stéréotype, l'islam véhicule un certain nombre de stéréotypes. Un des stéréotypes appliqué à l'islam, c'est celui-là. C'est une religion du fatalisme où on estime que tout est déjà écrit par un Dieu qui a déjà tout tracé, etc. Et cela ne laisse aucune place à l'initiative humaine, à une conception haute du temps. Or, et cet auteur que vous, sur lequel vous avez terminé, Mohamed Iqbal, qui est un auteur que vous et moi pratiquons et aimons et auprès duquel nous trouvons un enseignement absolument riche, invite dans sa reconstruction de l'islam à revenir à la cosmologie du Coran, qui est une cosmologie qui laisse l'avenir ouvert. L'avenir est un univers de possibilités. Ce n'est pas une chose qui serait déjà prédéterminée et écrite. L'idée, en quelque sorte, que l'avenir étant déjà prédéterminé, tient en réserve, en stock, si vous voulez, l'ensemble des événements qui vont arriver, et le temps ne ferait que distiller ces événements dans l'ordre où ils doivent se produire. Ça, c'est une vision unilinéaire du temps. Vous avez l'impression que le temps n'est simplement que le prolongement d'une ligne qui irait du passé vers le futur, c'est-à-dire que le Reda Ben Kiran et le Souleymane Bachir Diagne d'il y a 5 ans existent quelque part virtuellement et attendent que nous les rejoignions. Nous allons dans 5 ans rejoindre ces images de nous qui sont déjà là dans l'avenir et dans une projection d'il y a 5 ans. Alors que l'autre conception, la conception d'une cosmologie et d'un temps ouvert, c'est de dire que l'avenir c'est un ensemble de possibilités et que vous et moi allons écrire des possibilités qui sont en nombre infini selon notre capacité d'initiative. Et c'est cela que met en place Iqbal. C'est en cela qu'il dit qu'il y a deux conceptions possibles du destin et pour lesquelles d'ailleurs il y a deux mots différents qu'il utilise en arabe. Le premier mot, taqdir, serait le destin prédéterminé, préécrit. Je suis obligé de parcourir la trajectoire qui a été déjà tracée pour moi et qui est déjà écrite. Ou alors, ça c'est le qisma. Le qisma, l'avenir est tenu en réserve et il va se dérouler selon un plan préordonné et préétabli. À la différence de ce qisma, il y a ce qu'il appelle le taqdir. Le destin qui est, si vous voulez, la rencontre entre l'initiative humaine et l'ordre des choses. La capacité qu'a l'humain d'orienter les choses et de faire advenir des possibilités nouvelles, d'être toujours ouverture du temps. Vous savez, c'est le grand prospectiviste français, Gaston Berger, malheureusement dont on a oublié la pensée et qu'on aurait intérêt à redécouvrir à notre époque. Gaston Berger disait, l'avenir ce n'est pas ce qui est déjà écrit, c'est ce que nous allons tous ensemble inventer. L'idée que le futur est chose à inventer et que nous allons l'écrire, c'est ce que vous retrouvez dans la pensée de ce philosophe poète Iqbal, justement, qui est à la fois un philosophe du temps et un poète du temps, où il dit, puisque vous avez cité ces magnifiques vers, je vais vous en citer un d'Iqbal, il dit « Ose ton ego, ose ton moi, de telle sorte qu'avant de créer ton destin, Dieu te demande à toi, sa créature, quel est ton avis ?» C'est-à-dire que Dieu et l'ego humain écrivent ensemble ce qui va arriver. L'humain devient à ce moment-là le collaborateur de Dieu dans le travail d'achèvement de la création. Plutôt que d'être quelqu'un qui va subir un avenir déjà préétabli, il est au contraire celui qui va contribuer à l'ouverture des possibilités, à faire que la terre, au lieu d'aller vers sa vieillesse, aille toujours vers sa jeunesse. Si on estime que la jeunesse c'est le temps des possibles et que la vieillesse c'est le temps où les possibles se rétrécissent, Gaston Berger nous invite à comprendre que le monde va vers sa jeunesse et pas vers sa vieillesse. C'est-à-dire qu'il est toujours la démultiplication de possibilités. Nous fabriquons toujours l'être humain et cet être qui fabrique des possibles, qui n'arrête pas d'ouvrir les possibles de l'avenir et d'inventer et d'écrire cet avenir-là. Et donc c'est cette cosmologie-là que Iqbal nous invite à découvrir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai terminé mon livre par lui, parce que cette philosophie du temps qui est la sienne et qu'il lie à partir du philosophe Bergson, pour revenir à ce qui était notre point de départ, et la chose la plus importante qui soit dans sa pensée, je crois, c'est la chose la plus qui est porteuse à la fois de beauté et d'optimisme pour ce que signifie l'aventure humaine, une aventure humaine qui n'est jamais terminée et qu'il est de la responsabilité de l'humain toujours d'écrire.
Bachir, merci beaucoup. C'était un grand plaisir.
Le plaisir était